a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Sur RFI, la politique est un sujet quotidien. Le dimanche, on écoute les déclarations des politiciens et on invite un politologue. C'est Dimanche Politique.
François Bernard.
Adrien Delgrange a écouté ce qui s'est dit sur les radios, sur les télévisions. Et nous allons observer l'évolution de la situation avec un sociologue, politologue. Ce soir, Erwan Lecoeur qui nous a rejoint dans les studios de RFI. Bonsoir Erwan Lecoeur.
Bonsoir.
Vous êtes donc sociologue, analyste, spécialiste de l'écologie politique. Alors les élections européennes de dimanche dernier ont révélé leur verdict et si certains résultats étaient attendus, d'autres ont surpris, les sondeurs notamment. L'excellent score réalisé par les écologistes dans plusieurs pays, en particulier l'Allemagne et la France. Est-ce que cette vague verte a surpris l'observateur du mouvement écologiste que vous êtes depuis longtemps, Erwan Lecoeur?
Écoutez, je fais partie des gens qui disent sous forme de blague que les années en 9 pour les européennes sont bonnes pour les écologistes et les années en 4 plutôt pour le Front National traditionnellement. Mmh. Donc c'est une année en 9, elle a du coup été plutôt bonne pour les écologistes comme la précédente 2009, comme celle d'avant 99, comme celle d'avant 89 et même comme la 79. Donc voilà, donc surpris oui un petit peu par l'ampleur, néanmoins je faisais partie des gens qui pronostiquaient plus de 10% pour les écologistes parce que l'ambiance sociale était présente et que le climat était un sujet sociologique. Bien sûr, il n'était pas politisé comme on souhaiterait éventuellement pour certains qu'il le soit suffisamment, mais il était sociologiquement très présent. De la même façon que les gilets jaunes étaient très présents dans la rue, il y avait deux mouvements sociaux qui s'exprimaient. Il est assez logique que ça ait des répercussions dans le scrutin politique des européennes, qui, je le rappelle, est un scrutin particulier où on vote sur enjeux beaucoup plus que, bien sûr, on vote pour la politique nationale, mais pas seulement. Et les écologistes
et
tirent leur épingle du jeu.
Donc sans nécessité de faire des alliances.
Exactement.
Est-ce que Yannick Jadot, le leader de ce mouvement écologiste, est capable de capitaliser, vous pensez, sur ce succès, voire incarner le changement de cap lors de la présidentielle?
D'abord, est-ce qu'il le veut? Yannick Jadot, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, il y a eu un effet Jadot. Hein. Il est clairement issu du milieu des ONG, issu du milieu écologiste. Il n'a pas fait de politique avant 2009 et Europe Écologie. Il s'est engagé la première fois pour l'Europe et pour l'écologie. Il a une sorte, je dirais, d'onction comme cela. Il n'a pas traîné trop dans les partis politiques et dans les petites affaires et les bisbilles que les écologistes ont trop souvent mis sur le devant de la scène et qui leur ont valu beaucoup de déboires. Donc Yannick Jadot, il n'a pas forcément ni d'intérêt ni de la volonté, lui, de se présenter à la présidentielle. C'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est est-ce que l'écologie, oui ou non, est le grand sujet du XXIe siècle. Il en est convaincu depuis qu'il est très jeune. Et là, il a réussi un coup, comme Cohn-Bendit avait réussi des coups en 99 et en 2009. Cette fois, c'est lui qui a réussi le coup parce que l'ambiance sociale était là. Il y avait un contexte favorable et il a fait une campagne qui était écologiste et européenne. Mmh. Il a réussi de ce point de vue contre les mauvais augures, contre tous ceux qui disaient qu'il fallait s'allier. Donc, il ne faut pas attendre de Yannick Jadot ce qu'il ne sait pas faire. Il ne va pas faire de la petite politique politicienne française. Par contre, éventuellement, il pourra être un des vecteurs d'un nouveau pôle dans la politique française, ce que un certain nombre de sociologues comme moi voyons émerger.
Oui, et ils veulent le dire d'ailleurs, Adrien Delgrange, hein, vous avez passé la journée à guetter la parole politique. Quels étaient les messages aujourd'hui?
Tout d'abord celui de Yannick Jadot, avec 13,4%, bien au-dessus des sondages, et 12 députés européens, Europe Écologie Les Verts, distance largement la France Insoumise, le Parti Socialiste et Nouvelle Donne, Génération et le Parti Communiste, avec peut-être un nouveau défi. Les Verts en tête peuvent-ils, c'est ce que vous demandiez à Erwan Lecoeur, rassembler la gauche, composer une sorte de gauche plurielle à Strasbourg, ce à quoi répond Yannick Jadot?
Le mandat, c'est de sauver le climat, de sauver la biodiversité et de remettre une société plus solidaire. C'est pas de refonder la gauche. Moi, ça fait des mois et on me redemande encore de sauver le passé. Moi, l'exigence, le mandat que j'ai reçu des jeunes, c'est de sauver l'avenir.
Yannick Jadot sur France 2. Alors que l'écologie peut être transpartisane, les Verts seraient trop à gauche pour rassembler, y compris du côté du centre et de la droite, qualifiés de pastèques, autrement dit vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Du côté des rouges, par exemple, je parle pas des communistes, mais des insoumis, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec un peu plus de 6%, obtient un score trois fois inférieur à la présidentielle de 2017, loin des 19% d'il y a deux ans. Clémentine Autain qualifie le résultat des européennes pour son parti de douche froide et pour la première fois, François, dans les médias, la députée de Seine-Saint-Denis tacle, sans le nommer, Jean-Luc Mélenchon.
Nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Ça, c'est pour le profil politique. Et par ailleurs, sans doute, avons-nous pris trop de distance avec un discours cohérent de gauche et pas avec un discours qui peut être dans le clash permanent et qui a clivé avec une partie de notre électorat qui se trouve du coup pas considéré ou qui ne comprend plus tout à fait quelle est la ligne du mouvement.
Oui, Clémentine Autain sur France Inter. Alors la ligne d'un mouvement, eh bien c'est aussi le leitmotiv chez les Républicains avec un score historiquement bas pour la droite française, un peu plus de 8%. La semaine qui s'annonce va être difficile pour Laurent Wauquiez. Il a reçu de très nombreux textos et appel du pied pour lui demander de quitter la présidence du parti. Pour l'instant, le président tient. Il appelle à organiser les états généraux du parti en septembre. En attendant, le parti se fissure. Des députés annoncent vouloir quitter le groupe LR à l'Assemblée nationale, à l'instar de ce député de la Sarthe, Jean-Carles Grelier.
Si on doit rester dans un entre-soi à l'intérieur du parti, sous la même autorité et avec le même champ d'idées, on n'y arrivera pas. Et élection après élection, les Républicains finiront par disparaître.
Alors avant de disparaître, le député LR pointe ce qui manque.
Retrouver le sens et les valeurs qui sont celles de la droite française dans toute son histoire et retrouver aussi ce soutien populaire qui nous fait aujourd'hui défaut, de tous ceux qui aujourd'hui sont perdus et ne savent plus où s'adresser, du Rassemblement National à La République En Marche. Eh bien, entre les deux, il y a encore une place pour la droite et c'est ce à quoi nous allons essayer de nous atteler.
Jean-Carles Grelier, député LR de la Sarthe sur Europe 1.
Alors, on a parlé des surprises en début d'émission de cette élection avant de parler des vainqueurs. Évoquons les vaincus. Les deux grands partis de gouvernement, le Parti Socialiste et les Républicains, qui ont plongé à des niveaux historiquement bas, en ce qui concerne les Républicains surtout, et en tout cas, les Socialistes étaient déjà mal en point. Laquelle de ces deux familles politiques, selon vous, est la plus touchée ?
Les deux. Je crois que, sociologiquement, depuis le début du XXIe siècle, il n'y a plus de gauche ni de droite de gestion qui vaille. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus un peuple de gauche et un peuple de droite qui voudrait soutenir ces vieilles visions et ces vieilles participations au gouvernement. Emmanuel Macron l'a démontré en 2017, il est arrivé, il a aspiré d'un seul coup ce qui restait de la droite gestionnaire et de la gauche gestionnaire. Ce que j'appelle le pôle central, le pôle gestionnaire, il l'incarne parfaitement et je ne vois pas comment ni le Parti socialiste ni l'ex-UMP LR se relèveraient de cette de ce coup de Dracula qu'a opéré Emmanuel Macron sur un paysage politique qui était déjà celui-là depuis les années 2000, pour faire rapide. Hein. Sociologiquement, on voyait bien dans les enquêtes que ces gens-là n'étaient pas soutenus. Par contre, ils avaient encore beaucoup d'élus et ils se passaient le pouvoir, ce qu'on appelle la cartélisation, hein, les gouvernements par cartel. Ils se passaient le pouvoir d'une fois à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle configuration. Il va falloir beaucoup plus que des états généraux ou des nouveaux programmes de droite ou de gauche pour reconstituer quelque chose autour de ces partis qui n'en sont plus, qui sont des fantômes en réalité. Le Parti Socialiste, on le voit bien, et LR également, sans aucun doute.
Et changer de président, alors le départ de Laurent Wauquiez peut remettre en place une dynamique, vous pensez ?
La seule question qui se pose à eux, pour la droite encore aujourd'hui, c'est qui sera candidat en 2022, parce qu'à droite, on a besoin d'un chef, pas tellement de militants, pas tellement d'une ligne, mais d'un chef. C'est traditionnel, les droites ont besoin d'un chef pour espérer gagner le pouvoir. La question aujourd'hui, c'est qui et quand les futurs candidats à la présidence de la République vont se déclarer pour tuer Laurent Wauquiez et prendre sa place. On voit très bien de qui il s'agit.
Alors la question, de qui s'agit-il ?
Je ne commenterai pas cet aspect-là.
La question de la personnalité dirigeante se pose aussi pour la France insoumise. On a entendu Clémentine Autain tout à l'heure questionner le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la France insoumise peut ou doit se passer d'une personnalité qui est finalement son incarnation ?
C'est tout son problème. C'est le problème de la France insoumise qui est un mouvement, qui n'est pas un parti, qui est autre chose. Un peu comme le Rassemblement National qui se veut être un mouvement et pas un parti, autre chose, un Front National, un rassemblement de plein de gens qui peuvent avoir des divergences très fortes. Jean-Luc Mélenchon est à la fois le ciment, mais il est aussi le baromètre. Quand il ne va pas bien, et ben la France Insoumise va moins bien aussi. Et puis, il faut pas se tromper, il a fait le même score qu'en 2014. Il a fait le même score qu'en 2009. Il n'a pas fait un mauvais score pour des européennes. Le problème, c'est que la France Insoumise n'a pas grand-chose à raconter sur l'Europe. Et qu'elle n'a pas grand-chose à raconter sur l'avenir de l'Europe, à part une vision qui est en gros reprise par le Rassemblement National beaucoup plus efficacement. Il a fait le même score exactement qu'en 2009 et qu'en 2014. Donc ce n'est pas un échec, c'est un échec franco-français en interne, et donc ça va le remettre en cause au sein de son parti, au sein de son mouvement, pardon, mais ce pôle-là, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas l'incarner seul. Or, depuis quelques années, il pensait qu'en étant le principal opposant à Macron, sur une ligne extrêmement dure, en faisant une campagne anti-Macron, comme Marine Le Pen, il allait réussir à incarner, je dirais, la pole position dans le pôle de la gauche écologiste. Eh bien, c'est faux. Mmh. Au moment des européennes, en tout cas, c'est faux. Les municipales vont démontrer que c'est encore faux, et les régionales vont encore montrer que c'est sans doute faux. Donc, il y a que la présidentielle qui permettra éventuellement à Jean-Luc Mélenchon de se refaire une santé.
Alors, rendez-vous en 2022, c'est ça?
Oui.
Du côté des socialistes, Benoît Hamon avait fait un petit peu plus de 6% à la présidentielle, justement. Dimanche dernier, Raphaël Glucksmann a fait un score à peu près identique. Est-ce que finalement, c'est encourageant de ne pas être descendu plus bas?
Oui, mais en même temps, il faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Donc peut-être qu'ils n'y sont pas encore tout à fait. C'est deux visions du monde. Je pense que cette position-là, celle par exemple de Benoît Hamon, n'est pas mauvaise. C'est même la meilleure. Hein, une sociale écologie est demandée par une majorité des Français. Sauf que le problème, c'est quelle est l'incarnation? Quel est le mouvement social qui est capable de le porter aujourd'hui? Ces fameux créatifs culturels, 30 et quelques pourcents de la société, c'est un pôle sociétal. Ça n'est pas aujourd'hui un pôle politique. Et Benoît Hamon n'arrive pas à l'incarner.
François Bernard.
Dimanche politique en compagnie aujourd'hui du sociologue, spécialiste de l'écologie politique, Kerwan Lecoeur, et avec Adrien Delgrange de la rédaction de RFI. Les hommes politiques ce dimanche ont aussi, Adrien, parlé Europe.
Et oui, car se joue maintenant le jeu des alliances, si j'ose dire, comme s'il y avait le second tour des élections européennes, à savoir constituer des groupes de parlementaires à Strasbourg pour mieux peser sur les décisions. Numéro 2 de la liste Renaissance derrière Nathalie Loiseau pour l'écologiste Pascal Canfin. C'est désormais une nouvelle ère politique qui s'ouvre au Parlement européen.
Pour la première fois depuis 40 ans, ce temps-là est terminé. Puisque quand on additionne le score de la droite et de la gauche, ça ne fait pas 50%. Donc, il y aura une nouvelle majorité demain au Parlement européen. Elle sera soit à 3, les socialistes, la droite et nous, soit à 4, les trois premiers, plus les Verts. Et nous souhaitons, parce qu'encore une fois, le climat est fondamental dans notre action politique, c'était, je le rappelle, l'axe premier de la liste Renaissance, eh bien, nous souhaitons naturellement y associer les Verts.
Pascal Canfin chez nos confrères de France 24, main tendue aux Verts, reste à savoir s'ils la saisiront, il y a peu de chances qu'ils la saisissent, ils veulent créer leur propre groupe. Autre enjeu, le président de la Commission européenne, un siège occupé jusqu'à présent par le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, appartenant au groupe du PPE. Alors pour information, le président de la Commission est élu pour un mandat de 5 ans par le Parlement européen. Eh bien, ce matin, pour Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques, 15 ans de droite à la tête de l'UE, ça suffit.
Le président de la Commission, il est depuis 15 ans conservateur. Depuis 15 ans, il appartient au PPE. Aujourd'hui, vous avez un Parlement européen dans lequel, certes le PPE est le premier parti, mais enfin, il a 180 sièges sur 750, il est loin de la majorité. L'écart avec le PSE de 40 sièges n'est pas très important. Donc, il n'y a pas de leadership évident. Et moi, je vais vous dire une chose. 15 ans, ça suffit. Pour moi. Ce que je souhaite, c'est que les sociaux-démocrates, qui sont la deuxième force, les libéraux, et Emmanuel Macron qui va les rejoindre, les écologistes, soient d'accord pour qu'il y ait un président de la Commission qui représente une Europe qui soit plus ouverte, plus progressiste.
Pierre Moscovici sur France Inter ce matin.
Alors, Erwan Lecoeur, on a assisté à ce duel entre, on va dire, centristes, libéraux et populistes à l'occasion de ces élections européennes en France. Ça a marqué le scrutin, il faut le dire. Est-ce que ça va se prolonger, ce duel-là, vous pensez, sur la scène européenne?
Oui, d'ailleurs, c'est déjà le cas depuis pas mal d'années maintenant. On le voit bien dans plusieurs pays, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, même en Belgique ou même en France aujourd'hui. Il y a au niveau européen, bien entendu, je dirais, des forces, entre guillemets, conservatrices et des forces challenger. Les forces challenger, ce sont évidemment les nationaux populistes, hein, qui ont fortement gagné en nombre de sièges à l'occasion de ce scrutin, notamment avec les Italiens de la Liga, hein, et Salvini. Ils ont beaucoup gagné. La droite nationaliste et populiste s'est renforcé à l'occasion de cette élection. Après, le Brexit va faire que Nigel Farage va partir avec ses 30 élus. Donc ça va leur manquer. Mais on a là un pôle. Au milieu, on a un pôle, et on le voit très bien, il est en train d'essayer de se constituer comme un seul pôle. C'est en gros les libéraux qui disent « Désormais, vous pouvez plus jouer sans nous, la droite et la gauche traditionnelles. Vous devez vous allier avec nous, sous-entendu, on est au centre du jeu. Sous-entendu, comme dans toutes les démocraties où il y a une représentation à la proportionnelle, l'Allemagne, la Belgique, la plupart des pays européens fonctionnent comme ça, pas la France, on n'a pas l'habitude, mais il va falloir qu'on apprenne. Eh bien, ce sont les libéraux qui sont au centre du jeu, même s'ils ne sont pas les plus forts, c'est eux qui peuvent décider d'une future commission. Et puis, ils veulent que les Verts soient dans le paquet. Mais pourquoi ils veulent que les Verts soient dans le paquet? D'abord pour se donner un peu de morale par rapport à tout ça, et puis pour espérer que les Verts ne vont pas, ne pourrait pas créer un troisième pôle, parce que là on a bien un pôle central gestionnaire comme dans plein de pays d'Europe, mais face aux populistes ils aimeraient bien rester en binôme, et en fait il y a un troisième pôle qui n'arrive pas à s'exprimer en France politiquement, et en Europe qui commence à prendre aussi de la forme et de la force, et qui est le pôle, on va l'appeler écolo-alternatif, hein, avec ce qui reste de la gauche la plus entre guillemets intelligente, qui a compris que l'écologie était désormais un vrai sujet, et puis aussi tous les gens qui vont de façon alternative à l'ancienne gauche qui était juste gestionnaire, essayer de reconstituer une vision du monde, une vision d'une Europe qui, par exemple, prendrait de véritables décisions sur l'environnement, mais aussi sur le social. Et ce pôle-là, eh bien, les écologistes, les Verts, pourraient en être les instigateurs, parce que, contrairement à ce que vous disiez, ils n'ont pas créé de parti, ils ont toujours été un parti européen et même mondial, c'est les seuls.
Alors, revenons en France, du moins avec vous, Adrien Delgrange, parce qu'on a évoqué dans les médias, avec un petit peu d'inquiétude, manifestement, cette marche des mutilés, ces gens blessés dans les manifestations de Gilets jaunes.
C'était cet après-midi à Paris, François, entre 300 et 400 personnes ont défilé dans le calme pour dénoncer les mutilations policières et réclamer l'interdiction du lanceur de balles de défense, appelé aussi le LBD. Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes, a perdu un œil suite à un tir de LBD.
Mutilation ! Stop ! Stop ! Mutilation ! Stop ! Stop !
Les mesures concrètes que vous réclamez aujourd'hui ?
La fin du LBD, arme de terreur politique, la fin des grenades, et qu'on cesse avec les mutilations et qu'on revienne à une doctrine du maintien de l'ordre qui a toujours été en France et qui n'est plus respectée aujourd'hui, et que ces gentils cow-boys de la BAC rentrent chez eux, qu'ils aillent faire leur travail, à défaut de faire les cow-boys et de mutiler les gens.
Quant au secrétaire d'État à l'intérieur, il déclare ce matin ne pas avoir de regrets sur la gestion des manifestations de Gilets jaunes, estimant que ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée ou parce qu'un œil a été éborgné qu'il y a eu faute des forces de l'ordre. Quant à l'utilisation du LBD à l'origine de nombreuses blessures, pour le secrétaire d'État, pas question de l'interdire.
Il est hors de question de retirer le lanceur de balles de défense. C'est une arme intermédiaire, donc qui évite d'utiliser l'arme létale, qui est l'arme administrative, c'est-à-dire le pistolet de nos fonctionnaires.
Mais vous allez en changer les conditions d'utilisation. Vous travaillez aussi sur d'autres armes alternatives ou pas du tout?
Donc le LBD, c'est une arme indispensable quand des situations dérivent en émeutes urbaines, en violences urbaines. Vous savez, le LBD, il est utilisé tous les jours par nos policiers et nos gendarmes. Et heureusement, pour mettre fin à des troubles à l'ordre public, pour mettre fin à un refus d'obtempérer, pour se protéger contre leur vie, quand leur vie est en danger. Donc il est hors de question de revenir sur le LBD.
Laurent Nunez sur RTL ce matin. Erwan Lecœur, ne pensez-vous pas que cette opposition presque irréconciliable entre policiers et gilets jaunes, exacerbée par des exactions des deux côtés, soit comme un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ou comme un symbole d'une France divisée que le chef d'État va traîner tout au long de son mandat?
Oui, je pense que c'est le cas. C'est une faute morale. De la même façon que sur l'écologie, il avait fait des promesses, il les a pas tenues. Sur la morale en politique, il a aussi fait des promesses. Les gens l'ont cru et ils pouvaient le croire. Il était jeune, il a rénové les choses et ce n'est pas le cas. Donc on a bien vu dans ce scrutin qu'il y a eu une montée de participation autour aussi des Gilets jaunes, c'est-à-dire les pros et les anti-Macron se sont mobilisés. Et ça va continuer tout au long, sans doute, des années qui viennent. Et pour Emmanuel Macron, il y a clairement un problème Gilets jaunes qui n'est pas leur nombre, qui est la faute morale et politique qui a été menée. Même si le grand débat pouvait nous permettre d'en sortir, eh bien, il y a eu, notamment dans la gestion, en effet, du maintien de l'ordre, il y a eu quelque chose qui, moralement, ne passe pas auprès d'une partie de l'électorat. C'est aussi la raison pour laquelle Emmanuel Macron, tente aujourd'hui d'aller chercher du côté de sa droite plutôt que de sa gauche, parce que il y a un peuple de gauche qui ne lui fait plus confiance aussi sur ces problèmes-là.
On n'a pas vraiment le temps d'en dire beaucoup plus. Notre émission se termine à 29h30, c'est ça? Je me confirme dans la cabine. Donc, merci de vos explications, Erwan Lecœur, sociologue spécialiste de l'écologie politique. Merci à vous, Adrien Delgrange. La politique sur RFI sera également demain matin. Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Et puis, à noter aussi Mardi Politique qui recevra Olivia Grégoire, elle est députée de Paris, elle est porte-parole de ce groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale également. Bonsoir à tous, à dimanche prochain pour un nouveau dimanche politique. Au revoir.